Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute des investisseurs pour ce 1er avril 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Je pense que le printemps se pointe un peu le nez, mais peut-être pour aujourd'hui, avant qu'on plonge dans notre sujet principal, y a-t-il des nouvelles financières ou économiques ou géopolitiques qui ont retenu ton attention récemment?
Moi, la première chose qui retient mon attention, c'est que je peux pas croire qu'il y a déjà le quart de l'année qui est terminé.
Ouais.
Ça a passé tellement rapidement. Il y a deux nouvelles là, au niveau économique qui ont retenu l'attention. D'une part, bon, il y a toujours la guerre en Iran là, qui inquiète beaucoup les gens. Il y a une certaine ouverture de l'administration américaine hier à l'effet qu'il cherche une porte de sortie, là, mentionné là, qu'il veut que cette guerre-là se termine plus rapidement que loin. Là. Donc, les marchés ont très fortement réagi à la hausse hier. Ça fait du bien hein, parce que jeudi, vendredi, lundi, les marchés ont été fortement négatifs. Ce qui fait qu'on termine le mois dans territoire négatif. Par exemple, au TSX, le mois de mars a donc été négatif de 4,6. On demeure en hausse année à jour à 3,9. Juste la journée d'hier, là, c'est une hausse de 2,6 sur le TSX, fait que ça a quand même absorbé une bonne partie de la baisse qui a été subie là, tout au long du mois de mars. Du côté américain, le S&P 500 a monté hier de 2,9% en une journée. On est quand même en baisse de 5% dans le mois de mars, en baisse de 2,9 année à jour. Fait que, tu sais, baisse de 2,9 année à jour au S&P 500, c'est quand même pas dramatique. Là. On s'entend dans un parcours d'investisseur, là, des baisses de 3-4%, il ne faut pas avoir peur de ça, ça fait partie du processus. Il faut même s'attendre à des baisses de 10 à 15% à toutes les années. Là. Ça arrive à chaque année ou presque en moyenne. Du côté du Nasdaq, une hausse de 3,8% hier. On termine donc le mois en baisse de 4,8. On est en baisse de 7,1. Donc, les 7 magnifiques là, qui continuent un petit peu de tirer de la patte par rapport au reste du marché. Du côté à l'étranger, le marché européen, asiatique, là, du côté du MSCI, Europe, Australie, Asie, on est en hausse donc de 2,3% cette semaine. Baisse de 6,4. Ils sont un petit peu plus affectés, là, étant donné que ce sont des pays importateurs de pétrole. Donc, quand le prix du pétrole augmente, comme ça a été le cas durant le mois de mars, c'est des économies qui sont un petit peu plus affectées. Les taux d'intérêt ont donc rebaissé. Entre autres, Powell, hier, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a mentionné qu'il ne voit pas la nécessité de hausse de taux à court terme, entre autres parce que les hausses du prix du pétrole à la pompe fait un peu le travail d'une hausse de taux. Donc, même s'il y a une hausse de l'inflation, quand on veut resserrer l'inflation, on veut un petit peu étrangler l'économie d'une certaine façon, on le fait normalement avec des hausses de taux d'intérêt. Dans ce cas-ci, ben, les hausses du prix du pétrole à la pompe viennent un peu agir à faire la même chose. Donc, à travers toutes ces nouvelles difficiles-là, on parle d'un rendement négatif pour le mois de mars. Il y a quand même des secteurs et des titres qui vont très bien. Entre autres, on a beaucoup Savaria, l'entreprise Savaria, une entreprise québécoise qu'on détient dans beaucoup, beaucoup de comptes. Sommet historique hier, on est en hausse de 13% cette année. Northland Power, dans l'énergie renouvelable, on a parlé de Boralex là, dans les deux dernières semaines qui se fait racheter. Ben, tout le complexe d'énergie renouvelable performe bien. Northland Power en hausse de 30%, Brookfield Renewable en hausse de 25%, Aecon Group dans construction et ingénierie en hausse de 34%. Fait que, tu sais, c'est pas tout qui va mal, c'est ça la diversification. Pendant que les 7 magnifiques en arrachent un peu, il y a quand même d'autres entreprises dans d'autres secteurs qui performent bien, qui prennent la relève, ce qui fait que les portefeuilles des clients en général se comportent quand même de façon adéquate dans un contexte difficile.
Ben merci beaucoup, Martin. Et merci de terminer sur cette note positive. La semaine dernière, Desjardins Gestion de patrimoine a tenu une conférence virtuelle portant sur les 4 piliers essentiels pour maintenir un équilibre financier à la retraite. Si vous n'avez pas reçu l'invitation de votre caisse ou de votre intervenant de Desjardins, on va l'inclure, on va inclure le lien dans l'envoi de notre balado cette semaine. La conférence était animée par notre collègue Angela Iermieri et pour faire suite aux nombreux échanges et questions soulevées lors de l'événement, Angela a gentiment accepté notre invitation de se joindre à nous aujourd'hui afin de répondre aux questions les plus fréquemment posées suite à la conférence. Angela est planificatrice financière chez Desjardins depuis plus de 25 ans, donc je pense que vous avez le même période de temps
à peu près.
Desjardins et possède une solide expertise en accompagnement des membres et clients, tant en préparation de la retraite et aussi qu'à la retraite. Merci d'avoir accepté notre invitation, Angela, et bienvenue au balado.
Merci, merci à vous pour l'invitation. Bien contente d'être ici aujourd'hui.
Merci. On va commencer par une première question qui a été posée et je pense que c'est légitime. C'est vraiment sur la tête de tout le monde en ce moment ou dans la tête de tout le monde. Est-ce qu'on peut utiliser un outil aujourd'hui, voire l'intelligence artificielle, pour faire un plan de retraite ou un plan de décaissement?
Bien, c'est sûr que l'intelligence artificielle, bien, ça fait maintenant partie de nos vies, puis ça va le faire certainement de plus en plus. Toutefois, les outils numériques, l'intelligence artificielle, ils peuvent être utiles pour s'informer, mais ils ne remplacent pas véritablement un plan de retraite réalisé par un professionnel. Les outils d'intelligence artificielle, ils peuvent aider notamment à mieux comprendre certains concepts financiers, des régimes fiscaux, par exemple, les sources de revenus qui sont disponibles à la retraite. Ça permet de faire quelques simulations de base, mais c'est des bons outils pour sensibiliser là, un point de départ, mais un plan de retraite doit être plus précis, doit être plus personnalisé. Donc, il faut vraiment analyser la situation globale de chaque personne. Donc, tant au niveau de l'épargne, des dettes, la fiscalité, des régimes publics qui sont offerts, les assurances, les volontés aussi de la personne au niveau successoral. Donc, il y a certaines décisions qui ne peuvent pas être prises de façon isolée. C'est interrelié, c'est interdépendant. Donc, il y a aussi des facteurs humains là, qui sont plus difficiles à automatiser. Là, il faut en discuter un peu plus. Donc, on pense aussi à la tolérance au risque en investissement. Il faut qu'elle soit bien expliquée, bien comprise. Puis, ça évolue aussi, on le sait, là, selon nos objectifs puis la durée de temps là, pour les atteindre, nos projets, nos priorités. Donc, le plan aussi doit être ajusté en fonction de ces changements-là. Il faut tenir compte d'événements de vie qui peuvent arriver, un décès, une séparation, recevoir un héritage, changer de carrière. Donc, tout ça, là, un planificateur financier, il peut analyser la situation dans son ensemble, coordonner les objectifs, le temps à court, moyen et long terme, là, pour proposer un plan réaliste, évolutif aussi, là, puis qui est aligné sur les objectifs de vie. Donc, certainement, les planificateurs financiers, on utilise des outils technologiques pour faire des simulations. Puis à ça viennent se jumeler aussi nos normes, les normes de projection standardisées par l'Institut de la planification financière. On pense au taux d'inflation, au taux de rendement espéré. Donc, c'est justement ça que nos conférenciers ont démontré lors de la conférence, qu'un plan financier personnalisé, mis en place et revu par un gestionnaire de patrimoine, un planificateur financier, bien, ça permet de maintenir l'équilibre financier et de mieux faire face aux risques financiers que sont, entre autres, comme on a démontré, là, la longévité, l'inflation, les rendements, la gestion des liquidités. Donc, ça aide à mieux planifier aussi là, la suite.
C'est sûr qu'en intelligence artificielle, on a juste à essayer ChatGPT un peu, ben la réponse dépend de ce qu'on intègre comme données. Puis, ça prend quand même certaines connaissances pour savoir quelles données je dois mettre là-dedans? Donc, quelqu'un qui n'a aucune notion puis qui fait juste garocher des données dans le chat, ben le plan est aussi bon que la qualité des données qu'on y intègre. La deuxième point que je vais rajouter là-dessus, on est un peu le gardien du plan comme planificateur financier. Fait que c'est bien de rentrer un des données dans le chat, puis mais après ça, ben faut le suivre le plan, puis souvent on fait des plans, puis on donne des objectifs, puis le client finalement, ben il fait des retraits, il fait pas la cotisation prévue, nous on est un petit peu le gardien, on dit « Hey, oublie pas, on a fait un plan, c'est ça les objectifs ».
Merci Martin, oui, c'est un excellent ajout. Alain, je suis entourée de planificateurs aujourd'hui, je suis la minorité. Puis je vais te poser cette question-là, et ça frustre beaucoup. On dit souvent en planification, ça dépend. Pourquoi on dit ça?
Ben, En fait, je dirais qu'il ne faut pas voir ça comme un irritant. T'sais, il ne faut pas voir comme si on essaye d'éviter la question, mais plutôt comme un signe qu'on essaye de personnaliser la réponse. Il faut que la réponse soit plus forte pour que ça signifie que ce qu'on veut, là, c'est privilégier une approche personnalisée puis vraiment là, alignée sur la réalité que la personne vit. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller un peu plus loin. Ça dépend, ben, c'est reconnaître que la bonne décision financière, ben, il faut qu'elle soit inscrite dans une stratégie globale. Ce n'est pas une solution toute faite pour tout le monde. Comme disons, on le dit souvent, planification financière, mais c'est parce qu'il n'existe pas de solution universelle. Chaque situation est unique. Chaque décision doit être prise en fonction d'un ensemble de variables là, qui est propre à chacun. Puis, comme on l'a dit, là, en finance personnelle, tout est interrelié. Donc, la bonne réponse dépend, entre autres, de... On peut regarder les revenus actuels, les revenus futurs, qu'est-ce qu'on détient comme placement, c'est quoi nos autres actifs, notre âge aussi, l'horizon de temps qu'on a, notre tolérance au risque, notre contexte fiscal, familial. C'est ça qu'on dit, ça dépend. Donc, le planificateur financier, ça doit faire l'analyse de l'ensemble de la situation personnelle, là, de comprendre, de bien comprendre les priorités, les besoins, là, de poser les bonnes questions là, pour que... Le « ça dépend », ben ça devient une recommandation concrète. Puis, deux personnes avec le même épargne, ils peuvent faire des choix très différents selon leur situation fiscale. T'sais, un exemple qui me vient en tête, souvent les gens, « est-ce que je suis mieux de cotiser dans Montréal ou dans mon CELI? » Ben, c'est sûr que la réponse risque d'être « ça dépend » parce qu'il faut faire une analyse de la situation globale. Donc, c'est pour ça que vos recommandations ne seront probablement pas les mêmes que ceux qu'aura reçu votre voisin. Là. Il faut vraiment creuser un peu plus loin là, pour donner la bonne réponse.
Puis, on parle beaucoup de plan de retraite, planification de retraite, illustration de retraite. Moins souvent, plan de décaissement. Comme si la planification arrêtait au début de la retraite. Concrètement, c'est quoi ça, un plan de décaissement?
Bien, concrètement, le décaissement, c'est le retrait de son épargne, de ses placements pour générer un revenu à la retraite. Puis, le plan de décaissement, bien, c'est la stratégie qui organise la façon dont on retire les revenus de retraite. Donc, c'est ce qui permet de gérer l'ensemble des sources de revenus, tant nos placements, tant les régimes privés, là, si on a des fonds de pension des employeurs, si on a aussi des rentes, peut-être des rentes viagères. Ça nous permet d'intégrer aussi les programmes des rentes gouvernementales ou peut-être si on prévoit une vente d'actifs importants. Là, donc, toutes ces sources-là, bien, on met ça dans son plan de décaissement. Puis, on planifie les retraits sur une durée prévue là, de la retraite en fonction de l'épargne disponible puis des besoins, bien sûr. Là. Et ce qu'on vise en bout de ligne, là, c'est vraiment d'optimiser aussi la fiscalité au niveau des retraits. Puis c'est aussi une question fréquente souvent qu'on reçoit tous, là, dans quel ordre que je devrais commencer à retirer mes placements, est-ce que je commence par mes REER, mes CELI, j'ai du non enregistré. Mais c'est ça le décaissement. Là. Donc, évidemment, ce que les gens veulent savoir, c'est combien je peux retirer, puis dans quoi je le prends, puis par quoi je commence. Bien, c'est pour ça qu'on dit que le décaissement, c'est une stratégie, là, c'est pas juste une simple mécanique, puis c'est pas une solution universelle pour tout le monde, parce que, encore une fois, là, c'est plate, mais ça dépend.
Bien, puis une fois qu'on l'a fait, ce plan de décaissement-là, puis souvent les clients à la retraite nous le disent, ben non, je suis à la retraite, j'ai pas besoin de plan. Non, il faut revenir le valider oui. À travers le temps.
La vie, aussi. C'est pas linéaire en plus, donc il y a des imprévus, les plans changent, les besoins changent. Puis l'autre question qui vient avec ça un petit peu, donc j'arrive à 71 ans, je convertis mon REER en fer, est-ce que je dois arrêter d'être un investisseur puis devenir un épargnant puis tout mettre dans des placements garantis?
Mais c'est sûr que la réponse est non. Là, l'investissement, c'est essentiel là, pour soutenir le revenu. Puis la retraite peut s'étendre sur des décennies. Là. Aujourd'hui, c'est pas rare de passer 20, 25, 30 ans à la retraite. Donc, ça signifie que l'argent doit continuer à croître dans le temps. Puis si tout l'actif est placé de façon trop conservatrice, ben ça risque d'épuiser plus rapidement le capital. Donc, même à la retraite, on sait là, le coût de la vie continue d'augmenter. L'inflation, on l'a démontré, ça fait partie des risques financiers. Donc, justement, investir, mais c'est ça que ça vise à protéger le revenu contre l'inflation. Donc, oui, dans les fermes, il y a un montant, il y a un retrait minimal qui est annuel, là, qu'on est obligé de prendre, mais le reste du montant, le reste de la somme peut continuer à générer des rendements. Puis c'est là que ça nous emmène aussi, c'est ce qu'on a abordé, là, la gestion des liquidités. Ça, c'est un aspect aussi important dans la stratégie d'investissement. Pour avoir une saine gestion des liquidités, c'est justement de se garder une somme là, qui va couvrir les dépenses fixes là, et même les imprévus, on pourrait dire, des 3 prochaines années. Ça, on pourrait conserver ça dans des placements peu liquides ou qui fluctuent moins, donc qui sont un peu plus conservateurs. Puis ça permet justement d'aller faire des retraits peut-être dans des périodes où les marchés sont plus volatiles, où on pourrait subir une baisse. Donc, en gérant bien ses liquidités, mais le reste du portefeuille, lui, peut continuer à être investi puis à croître là, là-dedans. Puis c'est sûr que ben, c'est toujours en lien avec son profil d'investisseur qu'on met à jour. Donc, si on est à l'aise avec le profil d'investisseur, ben, ça va bien.
Bien, c'est bien que tu dises ça parce qu'on le dit souvent, la gestion des liquidités, les liquidités court terme, on l'a mentionné beaucoup. Donc, tu renforces, merci Angela, un point qu'on apporte à nos clients. L'espérance de vie. On a beaucoup de conversations à ce sujet-là. Ah, je ne vivrai pas jusqu'à 95 ans. Moi, je veux mourir à 90 ans. Les gens ont des idées très arrêtées là-dessus, mais c'est pas ça la vie. Donc, comment est-ce qu'on intègre l'espérance de vie dans la planification?
En fait, il faut l'intégrer parce que, comme on a dit tantôt, un des grands risques financiers qu'on a regardé, c'est de vivre, c'est pas de vivre moins longtemps que prévu, mais c'est plus de vivre plus longtemps que son argent. Donc, en planification financière, mais l'espérance de vie sert de repère essentiel pour estimer combien de temps l'épargne devra soutenir notre niveau de vie, surtout à la retraite. Puis oui, les gens ne prévoient pas vivre jusque-là, mais dans les dernières années, les dernières décennies, l'espérance de vie a augmenté. Les gens vivent de plus en plus longtemps, donc ce qui est une bonne nouvelle. Mais la longévité vient donc changer la façon dont on finance la retraite parce qu'elle est au cœur de la planification financière. Le risque de longévité, mais c'est justement là, le risque de survivre à son épargne et c'est ça qu'on a regardé. Donc, pour ça, on fait un plan de retraite, qu'on soit un plan de retraite en prévision de la retraite ou même un plan de décaissement une fois qu'on est à la retraite. On doit utiliser, comme j'ai mentionné tantôt, les normes d'hypothèses qui sont données par l'Institut de la planification financière. Et en planification financière, nous, ce qu'on essaie, c'est de prévoir souvent au-delà de la moyenne. Donc, on ne veut pas manquer d'argent justement à 85 ou à 90 ans. Donc, il vaut mieux planifier plus longtemps que ça qu'à l'inverse. Donc, ce que les normes nous suggèrent, c'est de planifier avec une espérance de vie jusqu'à 95 ans, puisqu'à cet âge-là, il y a encore une probabilité de survie de 25 %. Ça veut dire, par exemple, une personne de 70 ans, ben, ils ont 25 % de probabilité d'être toujours en vie. Là, c'est 94 pour un homme, 96 pour une femme. Donc, c'est pour ça qu'on dit 95 ans en moyenne. Donc, étant donné cette probabilité-là, on ne tient pas compte juste de l'espérance de vie, là, qui est une moyenne, mais aussi de la probabilité de survie d'être encore là. Puis l'espérance de vie, ça donne, comme j'ai dit, là, une moyenne, mais en planification financière, on utilise les deux, donc on utilise cette prudence-là pour aller encore plus loin.
Bien, puis il y a une certaine gestion, il y a une gestion de risque qui est faite dans la planification, et ça, c'est un des risques, risque de survie.
Si on est encore en vie, puis on n'a plus un chou, c'est un méchant problème.
Donc, oui, exactement.
C'est ça qu'on essaie de gérer.
Exactement. Puis Angela, maintenant, pour la dernière question, s'il y a un seul message à retenir pour les gens qui approchent ou qui vivent à la retraite, ça serait lequel?
C'est vrai que la retraite, ça ne se résume pas, là, la planification de la retraite, à des calculs ou à des règles toutes faites ou à des utilisations d'outils technologiques. Là, c'est une démarche globale qui est évolutive aussi puis qui est profondément personnelle. Une bonne planification financière à la retraite, bien qu'il va rester des « ça dépend », mais ça l'aide quand même à transformer puis à prendre des décisions là, vraiment adaptées là, puis c'est rassurant. Donc, En mettant en place un plan de retraite ou un plan d'encaissement, on ne cherche pas nécessairement la perfection de trouver la solution, mais on cherche à être cohérent. On cherche une solution qui est durable puis qui est aussi flexible pour s'ajuster, comme on a dit, avec tout ce qui peut se passer dans ces années-là. Et c'est ça qui va nous assurer là, une tranquillité d'esprit. Puis on l'a mentionné, ça doit être revisé, ça doit être mis à jour selon les changements qui surviennent. Puis aussi, ce qui est important, bien, c'est toujours d'être bien accompagné par son gestionnaire de patrimoine, son planificateur financier dans cette démarche-là. Ça l'aide beaucoup.
Bien, merci beaucoup, Angela, pour ta présence aujourd'hui. Merci beaucoup à toi aussi, Martin. Et merci à vous tous pour votre écoute. Si vous voulez poser des questions sur votre planification de retraite, sur votre plan de décaissement, sur votre fiscalité ou la structure de vos placements, notre équipe, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi, on est là pour vous accompagner. À très bientôt pour un prochain épisode de À l'écoute des investisseurs.